On est aujourd'hui le lundi 24 février et on va commencer notre cours par notre traditionnelle réflexion. Traditionnelle lorsque nous terminons un livre de la Torah, nous terminons cette semaine par Parchat Pekoudé, le deuxième livre de la Torah, le livre de l'Exode. Un bref résumé, le livre de l'Exode, en français bien sûr, Shemot dans notre langue, la langue du maître du monde, le livre des noms, c'est-à-dire le livre de l'identité. C'est effectivement dans ce livre que se construit, se dévoile l'identité d'Israël, puisque l'identité d'Israël se dévoile au fur et à mesure que naît le peuple juif, et le peuple juif est né dans cette paracha. Cette identité va en se renforçant bien sûr avec le don de la Torah. Quelle est la différence entre l'identité juive et le don de la Torah, ou disons comment l'un complète l'autre? On donne une image très juste, c'est qu'en vérité, ce n'est pas que la Torah est l'identité d'Israël, mais la Torah dévoile l'identité du juif. C'est-à-dire que cette identité est enfouie au plus profond de nous, mais la Torah nous permet de dévoiler cette identité qui est en nous et qui est notre véritable identité. D'ailleurs, c'est aussi d'une certaine manière ce qu'Hachem avait dit à Abraham, la première parole adressée au fondateur de l'identité juive, « Lech lecha va vers toi ». C'est-à-dire, je vais te permettre de découvrir ce qui se cache au plus profond de toi. Ça va prendre bien sûr quelques générations. Ce qui se cachait, c'est l'identité d'Israël. Et donc, de la même manière qu'à l'époque d'Abraham, il n'y a pas encore véritablement la Torah, donc c'est Hachem qui dévoile au fur et à mesure à Abraham ce qu'est l'identité juive authentique. Et comme on le sait, on va le revoir aujourd'hui, la première véritable étape de ce dévoilement de l'identité juive authentique, elle va donc se produire chez Abraham, puisque lui-même n'est pas né avec cette identité. En tous les cas, il n'est pas né d'une manière visible avec cette identité, puisque comment s'appelait-il à sa naissance? Abraham. Or, notre père n'est pas Abraham, notre père est Abraham. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham. Quelle est la différence entre Abraham et Abraham? C'est un « hé ». Et nos maîtres disent, ce « hé » là, ce n'est qu'une lettre, mais symbolise d'une manière microscopique l'identité véritable d'Israël qui va continuer à se dévoiler jusqu'à la sortie d'Égypte et surtout jusqu'au don de la Torah. Comment on retrouve un lien entre le « hé » et la Torah? Bien évidemment, c'est facile. Combien y a-t-il de livres dans la Torah? « Hé », 5 livres. Donc on retombe sur cette logique absolument extraordinaire qui est celle de la Torah. Comme je l'ai dit souvent, c'est une insulte de dire que la Torah est une religion, la Torah est une science, la science des sciences, parce que lorsqu'on la connaît un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a une telle précision, c'est tellement fabuleux, tellement extraordinaire, comment les choses se mettent en place, comment chaque notion s'attache à une autre notion pour former au fur et à mesure comme un puzzle qui se reconstruit une image merveilleuse. En tous les cas, donc, évidemment, à partir du moment où l'identité juive commence à se dévoiler chez Abraham avec le « hé », automatiquement, lorsqu'elle continue et surtout lorsqu'elle véritablement commence à s'affirmer avec la naissance d'Israël, en recevant la Torah, on reçoit une Torah qui est aussi sous le signe du 5, puisque les 5 livres de la Torah, et 5, comme on le sait, est la valeur numérique de la lettre « hé ». Mais pourquoi le « hé » ? Parce que le « hé », disent nos maîtres, c'est aussi, je n'entrerai pas trop dans les détails, parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, c'est aussi la lettre qui fait allusion aux forces créatrices. Nos maîtres disent que le monde a été créé avec la lettre « hé ». Un verset explicite, juste après le récit de la création, on nous dit « Voici l'histoire du ciel et de la terre, béhé baram, qui ont été créés avec la lettre « hé ». Pourquoi la lettre « hé » ? Ça pourrait être le sujet de millions de cours. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais en tous les cas, au niveau du comment, si ce n'est au niveau du pourquoi, au niveau du comment, on s'aperçoit que nos maîtres voient dans la lettre « et », la lettre qui a contenu, qui contient toutes les forces créatrices qui permettent justement l'apparition du monde. Et donc, c'est cette lettre « et » qui contient les forces créatrices que l'on va donner à Abraham, qui après va se dévoiler dans la Torah, ce qui veut dire qu'il y a un lien donc entre l'identité juive authentique et, d'une certaine manière, la création, l'existence du monde, les forces créatrices. Quel peut être ce lien? Alors bien sûr, on va y répondre au fur et à mesure dans ce cours. Mais on continue toujours les préliminaires avant de rentrer vraiment dans ce cours. Après que je vous ai rappelé plus ou moins ce qu'était le livre de Shemot, le livre des noms, le livre de l'identité, on doit se rappeler un autre principe fort important que je vous ramène souvent, en tous les cas chaque fois que l'on termine un livre de la Torah, on a un principe fondamental. L'essentiel d'une chose, disent nos maîtres, se dévoile à la fin de cette chose. Comme il est dit, « Sof ma'ase be'machashava trila » Si tu veux comprendre ce qui se cachait dans la pensée du départ, alors regarde comment les choses se terminent. Comme on dit, lorsque tu as en présence tout le film jusqu'au bout, à ce moment-là, tu peux véritablement savoir ce qui était contenu dès le départ. Donc, sauf ma'ase marchava trila, nos maîtres disent, à kol oler achar achatum, tout va d'après la fin. Donc, si tout va d'après la fin, c'est très important pour nous. Parce que dans chaque livre, si je ne me trompe pas, j'ai déjà expliqué cette notion-là lorsqu'on a terminé le premier livre de la Torah, le livre de Bereshit. Et on va le remontrer encore une fois en terminant le livre de Shemot. On est donc forcément obligé de dire, d'après ce principe, que l'essentiel du livre de Shemot se dévoile dans la dernière paracha du livre de Shemot, qui est la paracha de Pekoudé. Or, pour ceux qui ont lu la paracha de la semaine dernière, à plus forte raison pour ceux qui ont écouté le cours que j'ai donné, pas ici, mais jeudi dernier dans mon centre qui est sur le site, un cours extrêmement important, je pose là-bas une question qui est vraie d'ailleurs pour la parasha de cette semaine, c'est qu'apparemment les dernières parashiot, la parasha de la semaine dernière, la parasha de cette semaine aussi, sont des parashiot apparemment très très rébarbatives. Très technique, très... Bon, on nous répète des choses qui apparemment sont déjà fort connues. J'ai expliqué dans le cours de jeudi dernier que c'est précisément dans ce genre de texte biblique où on a l'impression que rien de nouveau sous et au-dessus du soleil que se cachent généralement les plus grands secrets, les plus grands mystères, les plus grands messages de toute la Torah. Et de la même manière, notre paracha à première lecture, pour ceux qui la connaissent ou la liront, vous aurez l'impression, bon, c'est une énumération apparemment inutile de choses que l'on sait déjà. Et pourtant se cachent quelques messages extrêmement, extrêmement importants et certains d'entre eux, on va mettre en évidence aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans mon cours, je résume tout ce que je viens de dire. Le livre de Shemot est le livre de l'identité. Le livre de l'identité, c'est-à-dire que se dévoile dans ce livre l'identité juive. On sait déjà depuis Avraham qu'il y a un lien entre la création du monde et l'identité juive, le fameux « hé » rajouté dans le nom d'Avraham, les fameux « hé » livres de la Torah, les cinq livres de la Torah. Et donc dans Parshat Pekoudé, on devrait trouver cette notion, on pourrait dire, d'une manière grandiose, on devrait vraiment se rendre compte qu'effectivement il y a un lien entre l'identité juive, la création du monde et le livre de Shemot, et surtout la fin du livre de Shemot, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, très schématiquement, les deux dernières parashiot, celle de la semaine dernière et celle de cette semaine, retracent à nouveau, dans les moindres détails, toute l'élaboration et toute la construction du Mishkan. Finalement, le livre de Shemot termine par la construction du Mishkan. Je voudrais que vous compreniez une chose. Est-ce que vous savez plus ou moins combien il y a de versets dans le livre de Shemot qui sont consacrés à la construction du tabernacle, la construction du Mishkan?
300.
Beaucoup plus. Si on prend Parshat Trouma, Parshat Tetzavé, Parshat Kitissa, Parshat Vayakel, Parshat Pekoudé, on est pratiquement à 500 versets qui parlent de tout ce qui touche au Mishkan, sa construction, ce qu'on y faisait, qui y était, comment ils étaient habillés, presque 500 versets. Et au niveau quantité du livre, pratiquement la moitié du livre de Shemot est consacrée au Mishkan, Ribono Shel Olam. C'est tellement, tellement important. Très bien. Est-ce que vous savez combien de versets sont consacrés à la création du monde? 31 versets consacrés à la création du monde, près de 500 versets consacrés à la construction du Mishkan. Vous retenez votre souffle? Je répète, parce que vous ne comprenez pas l'énormité de l'anomalie. 31 versets consacrés à la construction du monde, de l'univers. Des centaines de versets pour le Mishkan. Vous avez compris que c'est de la folie pure. Pourquoi? Parce que pour ce que Dieu fait, 30 versets. Pour ce que l'homme fait, des centaines de versets. Bon, si c'est l'homme qui avait écrit la Torah, c'est peut-être vrai d'ailleurs qui s'est trahi ici. Si c'est l'homme qui avait écrit la Torah, je comprends qu'il s'en met plein la vue. Mais apparemment, à moins qu'on se soit fait avoir, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est le bon Dieu. Donc comment se fait-il que le maître du monde consacre 30 versets à ce que lui fait et un demi-livre de la Torah, des centaines de versets à ce que l'homme fait? Deuxième question qui est dans la logique de la première. Le Mishkan, il était quelques mètres de long sur quelques mètres de large. Il prenait l'espace peut-être d'un 3 pièces ou d'un 4 pièces à Jérusalem. Tout cassé avec un petit jardin, l'univers, c'est... On n'en fera jamais le tour. Donc pour parler d'une chose tellement immense, faite par le maître du monde, 30 versets, pour parler de quelque chose de tellement minuscule, fait par quelqu'un qui aujourd'hui est là et demain on n'entendra plus jamais parler de lui, des centaines de versets, comment c'est possible? À moins que se cache derrière la construction du Mishkan quelque chose d'immense qui fait qu'avec tout le respect qu'on doit au maître du monde, avec toute l'immensité de son univers, par rapport à ce que représente le Mishkan, effectivement, l'œuvre du maître du monde ne valait pas plus que 30 versets. Comme c'est lui qui a accepté que ça soit comme ça, c'est pas un manque de respect à son égard, puisque c'est lui qui a décidé. En se limitant à 30 versets, mais s'il n'avait pas fait, on ne l'aurait jamais su. C'est comme s'il nous hurlait du haut de son humilité, « Regardez l'immensité de mes œuvres. Jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'il nous faudra plusieurs millions d'années pour faire seulement le tour de l'ombre d'une cellule qui se trouve dans le cerveau humain. » Malgré l'immensité de mon œuvre, sachez que mon œuvre n'est rien par rapport à celle que je vous ordonne de réaliser, le Mishkan. Et c'est pour ça que je vais tellement en parler du Mishkan. Pourquoi? Parce que le Mishkan, dans l'optique de ce que j'ai commencé à expliquer, est plus que toute autre chose le véritable révélateur de l'identité juive, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons sur terre. Et après 20 minutes d'introduction, nous commençons notre cours. Et donc c'est dans cette paracha qu'on nous rappelle toutes les offrandes qui ont été apportées pour pouvoir faire le Mishkan, et on a tout d'un coup le 32e verset de cette paracha nous dit « Vatechel kol avodat Mishkan o el moed » Tout ce que l'on devait apporter pour constituer le tabernacle a été apporté. Vayasu bnei Israël kechol asher tziva Hashem et Moshe kenasu, tout ce que Moshe avait demandé, en se faisant l'intermédiaire bien sûr d'Hashem, tout ce que Hashem, par l'intermédiaire de Moshe, avait demandé a été réalisé. Sur ça, sur ce verset-là, on a un balatourim absolument incroyable. Il nous dit Vatechel, ça a été terminé. Le balatourim, pour ceux qui suivent mes cours, vous le savez, c'est un géant, et encore c'est une insulte de l'appeler géant, mais c'est le grand spécialiste de nous montrer comment dans la lettre se trouve l'esprit. C'est-à-dire comment dans la manière dont la Torah parle se cachent des secrets inimaginables. Et très souvent, quand la Torah utilise un mot qui est relativement rare, ou qui n'est pas du tout fréquent dans ce genre de contexte, il nous montre quel est le message. Or, effectivement, ici, on nous dit, pour expliquer qu'ils ont terminé, on nous dit « vatechel ». Or, ce n'est pas un mot qui est utilisé pour ce genre d'action. On aurait dû dire « vayafsiku », « vayisaimu ». Ils ont arrêté d'apporter, ils ont terminé. Mais « vatechel » est un mot qui n'est utilisé pratiquement qu'une seule fois dans toute la Torah, dans un autre contexte, qui est le contexte de la création. Rappelez-vous l'introduction. Et quand ? Quand le maître du monde a terminé de créer son monde, alors qu'est-ce qu'on fait pendant le kiddush ? On prend un verre de vin. Et quel est le premier mot qu'on dit ? Vayechulu hashamayim va'aretz, et fut terminé le ciel et la terre. Vayechulu, la racine vayechal. Vayechulu. Vous savez pourquoi une femme qui se marie s'appelle une kala ? C'est le même mot. Pourquoi ? Parce que la femme se termine, ça veut dire que dans ce sens que elle va véritablement commencer à exister du jour où elle se marie. Elle est kala, elle est prête maintenant à exister. Vayechulu hashamayim va'aretz, dit le Zohar, le monde est devenu la kala d'Hachem. Ça veut dire que maintenant le monde est prêt à exister. Jusqu'à présent, il est construit. Comme on dirait d'une maison qu'on a construite, tant qu'on l'a construite, elle n'est pas prête à être habitée. Et du jour où elle est terminée, à ce moment-là, on dit vayechulu. Vayechulu signifie que maintenant la chose est prête à exister. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait avant, c'était la préparer à ce qui est véritablement sa raison d'être. La raison d'être de la femme est de se marier, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle se marie, on l'appelle Kala. Lorsque le Shabbat est arrivé et que le monde était terminé, Vayechulu hashamayim va'aretz. Ça y est, maintenant le monde, après avoir été terminé, va pouvoir enfin commencer à jouer son rôle. Ce pourquoi Hachem l'a créé. C'est très intéressant, dit le Balat Urim. Pourquoi au moment où les Juifs ont terminé d'apporter tout ce qui était nécessaire pour construire le Mishkan, pourquoi utilise-t-on aussi un mot qui apparemment est trop sophistiqué pour décrire l'action d'avoir terminé d'apporter, et surtout un mot qui nous met en relation avec la création du monde? Regardez ce que le Balat Urim dit. Vatechel. Pourquoi il est dit seulement à ce moment-là, Vatechel? It lomar, tu dois comprendre. Qui hâta que seulement maintenant, lorsque le Mishkan est prêt à être construit, seulement maintenant, Kala Melechet Kol HaOlam, seulement maintenant on peut considérer que le monde véritablement a terminé d'être créé. Non, vous n'avez pas entendu. Non, parce que je n'ai pas entendu de... Wow. Vous avez fait ? On recommence. On recommence, que je n'ai pas entendu. On recommence. Itlomar, on peut dire, qui ata, maintenant, ata, c'est-à-dire maintenant, seulement maintenant, c'est-à-dire entre archav, c'est maintenant, ata, ça veut dire maintenant et seulement maintenant, c'est plus fort que archav, qui ata, avec un aïn, maintenant et seulement maintenant, kala, melechet, kol haolam, on peut considérer que le monde, véritablement, a terminé d'être créé. Oh. Enfin, des élèves comme je les aime. Vous vivez la Torah. La Torah ne s'enseigne pas, elle ne s'entend pas, mais elle se vit. Voilà. Donc, il faut vivre comme ça, c'est comme un... Moi, je suis le chef d'orchestre, et vous, vous devez... On continue. Maintenant, quoi qu'il en soit, essayons de réfléchir sur ce qui est enseigné ici. Seulement au moment où le Mishkan est terminé, seulement à ce moment-là, on considère que le monde est terminé. Ah, maintenant on comprend qu'effectivement, dans le récit de la création, le maître du monde avait fait une allusion à cela, dans le fameux Vayechulu, dans le fameux texte qu'on lit le vendredi soir. C'est vrai qu'on dit Vayechulu Hashamayim Va'aretz, c'est vrai qu'on dit « Et ils furent terminés le ciel et la terre ». Mais d'un autre côté, dans la suite du Kiddush, On laisse une place aux commentaires du Balatourim. Comment termine-t-on le Kiddush en disant Asher bara Elohim la'asot. J'ai créé un monde qui doit encore être parachevé. Rashi dit, ne pas confondre avec l'ivrite. En ivrite, la'asot veut dire faire. En hébreu biblique, en lashon hakodesh, la'asot veut dire parachever. Rashi dit l'etaken. C'est pas le même mot, après ça a été déformé quand c'est rentré dans le langage usuel en hébreu de la rue. Mais en hébreu biblique, on ne dit la'asot que lorsque l'on parachève, on perfectionne quelque chose, on appelle ça une assia. Faire uniquement, ça, c'est un autre nom. Et donc, Asher bara Elohim la'asot, nous dit le maître du monde, j'ai créé un monde, mais il n'est pas terminé, c'est à vous de le terminer. Seulement, le problème, c'est que dans le Kiddush, on ne nous dit pas et quand et comment on le termine. Vient la fin du livre de Shemot, Vatechel. Vatechel. Il aura fallu attendre des millénaires jusqu'à ce que le monde enfin rentre dans sa phase de perfection, de parachèvement, pas le mot, pardon, parachèvement, lorsque le Mishkan est fait. Et jusqu'alors, tant qu'il n'y avait pas de Mishkan, le monde était encore en état de Bria, mais pas en état de Assia. On n'a toujours pas trop compris ce que cela veut dire, mais on avance doucement. On découvre au fur et à mesure. Chaque cours est une aventure. On sait que ça va être passionnant, mais on ne sait pas trop où on va arriver. Alors on s'accroche pour l'instant. Tiens, en tous les cas, on commence maintenant à mettre pas mal d'éléments du puzzle. Ah, effectivement, Abraham avait reçu le hé pour lui permettre de comprendre, pour lui faire comprendre qu'attention, être juif, c'était un constructeur. D'ailleurs, on le dit, nous les hommes, chaque jour, à la fin de la prière du matin, Altikre, Banaïr, Ela, Banaïr, ne sont mes enfants, dit le maître du monde, que ceux qui construisent mon monde. Ceux qui disent mon royaume n'est pas de ce monde, ne peuvent pas être mes enfants. C'est impossible, puisque Altikre, Banaïr, et la Bonaïr, ceux qui construisent mon monde, celui-là sont mes enfants, seulement ceux-là. C'est l'allusion dans le Hé d'Avraham. Et on se retrouve des siècles plus tard, le peuple juif enfin fait le Mishkan, et Hachem dit à ce moment-là, voilà le vrai Vayechoulou, le Vatechel, pourquoi on est arrivé dans le Asher Bara Elohim La'asot, enfin la Asiya, parce que jusqu'alors, il n'y avait que la Bria. Et ça veut dire quoi, il n'y avait que la Bria? Essayons de comprendre, c'est quoi? C'est des termes un petit peu kabbalistes ou ça, ou c'est de l'hébreu biblique. Bria, Assia, quelle est la différence? Essayons de comprendre ce qu'est la Bria. Je vous ai souvent expliqué que lorsque l'on veut, en tant que juif, connaître le sens réel d'un mot, il faut chercher dans l'immensité de la Torah où ce mot que nous ne comprenons pas est utilisé peut-être d'une manière explicite, et comme ça on va comprendre que ce mot-là signifie cette chose-là. On a un verset extraordinaire au sujet de la Bria. C'est quoi la Bria? C'est quoi une situation de Bria? Alors, vous avez une création, mais c'est quoi une création qui est dans un état de Bria? C'est un concept, c'est une idée, ça veut dire quoi? Comment je peux savoir que je suis dans une situation de Bria, dans ma vie, dans cet endroit, ou je suis dans une situation de Assia? Comment je vais savoir? On le sait, et nous aussi les hommes, si on priait le matin, c'est-à-dire que si ce n'est pas seulement nos lèvres qui priaient le matin, mais notre cœur et notre cerveau aussi, vous m'auriez tout de suite donné la réponse. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la tfila avant le Shema Israël? Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Olam, Yotzer Or, ou Boré Chosher. Boré Rocher. Mot à mot, tu crées l'obscurité. Mais quand on parle qu'il crée l'obscurité, on utilise le mot bria, boré. C'est-à-dire que lorsque le monde est dans un état d'obscurité, le monde se trouve dans un état de bria. Voilà. Donnez-moi l'exemple dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner plein d'exemples d'une situation de bria. Un couple, lorsqu'il est encore dans la période d'apprentissage, de difficultés, de hauts et surtout de beaucoup de bas, de doutes, de cris, de pleurs, de larmes, d'obscurité. Le couple est dans sa phase bria. Ça veut dire que tout est encore l'obscurité. Dans ma propre vie, j'ai des moments où tout est sombre. Je ne comprends rien, je ne vois rien. Tout s'obscurcit. Je suis dans une situation de bria. L'histoire humaine, l'histoire individuelle, toute situation d'obscurité dans la vie s'appelle bria. Tu existes. Mais une existence dans la nuit s'appelle bria dans la Torah. Quand on veut parler d'une existence lumineuse, où tout est clair, où tout est évident, on n'utilise jamais le mot bria. C'est-à-dire que l'hébreu est une langue extrêmement riche, c'est une langue où chaque mot décèle quantité de messages, et l'hébreu a trouvé, pour parler de l'existence sous ses différents aspects, l'hébreu a trouvé un mot précis pour définir l'existence obscure, la souffrance, la tristesse, la peine, le deuil, bria. L'existence de joie, de lumière, de clarté, yetsira, yotzer or. Dans le même verset, les mots changent. Yotzer or ou boré hocher. L'obscurité est bria, la lumière est yetsira. Alors maintenant, ça va nous permettre, c'est le cas de le dire, d'avoir une lumière extraordinaire sur ce que dit le Baal HaTorim. Asher bara Elokim la'asot. J'ai créé un monde, mais je vous le dis, moi Hachem, ce que moi j'ai fait, c'est de l'obscurité totale. Pour sortir le monde de l'obscurité, j'ai besoin de vous. Vous, Am Israël, avez pour mission de sortir le monde de son obscurité. Asher bara Elokim la'asot. Retenez votre souffle, je vais vous révéler encore un truc très très fort. Mais je vous laisse encore. Je vous préviendrai quand je vous dirai aspirez fort. Donc je répète. Hachem fait l'aveu, et c'est incroyable. Vous imaginez quand chacun d'entre nous réalise quelque chose dans lequel on a mis beaucoup d'intelligence et beaucoup de savoir-faire. On peut supporter quelqu'un qui nous dit « oui, mais... » Hachem vient et il nous dit « écoutez, vous savez quoi ? Moi, le maître du monde, le plus grand, le plus beau, le plus parfait, le plus tout, je me mets 31 versets pour parler de ma création. Vous savez pourquoi ? Parce que j'en ai un petit peu honte. C'est tellement nul ce que j'ai fait. Pourquoi ? Bria. J'ai créé l'obscurité. Pourquoi, maître du monde, t'as fait ça ? Pourquoi t'as créé l'obscurité ? Expliquez. Parce que moi, je suis vraiment, 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 vraiment humble. J'ai pas du tout envie que les honneurs me reviennent à moi. Je veux que ça soit vous, les hommes, qui remportiez la palme de quoi ? Des Jeux Olympiques de la Lumière. Maintenant, il y aura un podium, et sur le podium, il y aura une médaille d'or, une médaille d'argent, et une médaille de bronze. Je vous laisse deviner qui c'est qui aura la médaille d'or. Et un jour, je vous révélerai qui c'est qui aura la médaille d'argent et qui aura la médaille de bronze. Et je suis très sérieux, je le sais aussi. Qui va monter sur le podium? Mais j'en laisse pour les autres. Cours. Donc, Jeux Olympiques de la Lumière, le maître du monde nous dit, voilà, moi j'ai créé un monde d'obscurité et vous allez apporter la lumière dans mon monde. C'est pour ça que je vous ai choisi. Asher bara Elokim la'asot. Je veux que ce monde brille. Et tant que ce monde ne brille pas, vous n'aurez pas réalisé votre mission. Le Baal HaTorim, là maintenant, prenez votre souffle. 1, 2, 3. Il nous révèle une chose extraordinaire. Sur les mots, Vatechel kol avodat amishkan. Et fut, le mot qu'on a expliqué, va techel, et fut terminé le travail du Mishkan, le Baal HaTorim, qui vraiment, je pense, étudie la Torah avec le maître du monde pour savoir tout ce qu'il savait, nous dit la chose suivante. Si tu regardes la valeur numérique de cette expression, ils furent terminés tous les travaux du Mishkan, Vatechel, Kol Avodat HaMishkan, Begematria, la valeur numérique est Be'esrim Bechamisha, Bekislev Nigmar. Le 25e jour du mois de Kislev, tout a été terminé. Oh, 25e jour du mois de Kislev. C'est quoi? Hanouka, la fête de la lumière. Comme par hasard, ils ont terminé de tout apporter, à l'époque, c'était bien avant Hanouka, le 25e jour du mois de Kislev, qui comme par hasard va devenir des siècles après, mais non pas Noël. Saint Noël, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. C'est non, pas Noël. En vérité, ils ne nous l'ont même pas piqué. Parce qu'au départ, Noël était une fête païenne. D'accord. Simplement, qui n'était pas le 25 décembre. C'était une fête païenne. Un culte rendu au soleil. Qui était faite plus ou moins à cette époque-là, mais pas le 25 décembre. Et après, quand il y a eu cette tentative de christianiser le monde païen et que les païens n'étaient pas prêts à lâcher toutes leurs fêtes et coutumes, alors les chrétiens ont trouvé un con. Compromis. Quel était le compromis? Ça veut dire que, bon, ben, on vous le laisse, mais on va lui donner une connotation aussi judéo-chrétienne. On va le faire tomber le 25, en souvenir du 25. Chez nous, c'est le 25 qui se lève, chez eux, le 25 décembre. Et comme ça, ils nous ont piqué donc Hanouka, et tout en faisant plaisir aux païens, en leur perpétuant la fête de la lumière qui tombait toujours dans la période du mois de janvier, plus qu'au mois de... C'était une fête qui était faite au mois de janvier. Le Talmud en parle dans Maaseret Sanhedrin, cette fête païenne qui était au mois de janvier et qui, par les chrétiens, a été récupérée dès le 25 décembre pour en souvenir du 25 qui se lève. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. On revient maintenant à ce qu'on explique. Donc, 25 qui se lève, fête de la lumière. Ce qui est extraordinaire, fête de la lumière, mais pas n'importe quelle fête, fête n'importe comment. On allume la lumière à partir du 25 qui se lève, ou dans la nuit, à l'extérieur, pour éclairer la nuit. Quel est le message de la fête de Hanouka? On le sait tous, que le peuple juif a pour mission d'éclairer l'obscurité de ce monde. Et des siècles auparavant, le Mishkan lui-même, et les juifs ne l'avaient pas calculé, mais c'est providentiellement que c'est tombé le même jour, tout a été terminé d'apporter le 25 qui se lève, pour bien nous faire comprendre que le monde est en état d'obscurité, en état de rocher, tant qu'il est en état de bria, parce que la création du maître du monde est une création obscure, et c'est seulement lorsque le peuple juif fait le Mishkan, qu'à ce moment-là, il y apporte la lumière, et c'est la raison pour laquelle, beaucoup plus tard, nous aurons la même date, la fête de Hanouka. On va aller un petit peu plus loin. Et c'est quoi le rocher? C'est quoi l'obscurité de la bria? On remonte encore un petit peu dans les versets. Où on trouve le mot rocher pour la première fois dans la Torah? Le premier pratiquement verset de la Torah. Ve'aretz haïta tohu ubohu ve'rocher et rocher. Là, le mot rocher va avec tohu. Hebo. Donc, un monde d'obscurité, c'est un monde de Tohebo. Là, il va déjà falloir faire référence à des textes que pas tout le monde connaît dans la suite du cours. Mais je vais bien sûr vous les apporter simplement. Et c'est quoi le Tohebo, qui est resté un mot très populaire dans toutes les langues? C'est quoi Tohebo? On dit, oh là, c'est Tohebo, ça veut dire quoi? C'est...
Balagan.
Mais en vérité, nos maîtres expliquent ce qu'est le Tohu et Bohu. Ils donnent une explication extrêmement intéressante, et bien sûr on ne va pas la justifier dans le cadre de ce cours. Tohu et Bohu, Tohu surtout, plus que Bohu encore, le mot Tohu signifie, d'après le véritable sens, la véritable compréhension du Lashon HaKodesh, de la langue sacrée, signifie quelque chose qui ressent un vide énorme. Ça veut dire quelque chose, que quand tu as très 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 faim, tu ressens une faim énorme, tu es en état de tohu. Lorsque tu aspires à quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre et que ce manque-là te prend à la gorge, tu es en état de tohu. La perte d'un être cher, tu es en état de tohu. Tout manque de quelque chose que normalement je devrais avoir me laisse en situation de tohu. D'ailleurs, nos maîtres, pour confirmer ce que j'explique, apportent même un verset qui dit « La chevet yatsra. Le monde n'a pas été créé et c'est marqué boré. Lo la tohu bara, le monde n'a pas été créé pour être en état de tohu, mais la chevet yatsra, mais pour être civilisé, il a été créé. Donc si tu laisses quelque chose dans un état brut, dans un état premier, non civilisé, non travaillé, voilà. Un diamant avant d'être poli s'appelle, il est en état de tohu. Tout ce qui est golem, comment on dit français golem, tout ce qui est matière première qui n'est pas encore travaillée, brut, c'est tôt. C'est ça le tôt. Donc l'obscurité, c'est le tôt. Le tôt, c'est le sentiment de manque, c'est pas complété, c'est pas fini, c'est pas travaillé. Maintenant, quand on dit que le monde est en état de Tohu, le monde est en état de Rocher, tant que finalement Israël n'y a pas apporté de lumière, c'est qui le monde qui est en état de Rocher, en état d'obscurité? C'est qui? C'est les pierres, c'est les arbres, c'est les oiseaux, c'est les chiens, c'est les chats. C'est qui le monde qui est en état de Rocher et de Tohu? C'est qui? Mais c'est les humains. Le monde, c'est les humains. Pourquoi l'homme a été créé le sixième jour? Parce qu'il est l'aboutissement, le but, il est lui la création. Pourquoi commençons-nous Rosh Hashanah le premier jour de l'an? Non le premier jour de la création, mais le sixième jour de la création, jour de la création de Adam, comme pour dire la création c'est l'homme. Donc quand on dit que le monde est en état d'obscurité, le monde est en état de manque, le monde ressent un vide, c'est qui le monde? Mais c'est l'humanité tout entière. Et donc, maintenant, traduisons dans un langage beaucoup plus moderne, Asher bara Elohim la'asot. Le maître du monde nous dit la chose suivante. J'ai créé une humanité qui ressentira toujours un manque, qui se sentira toujours dans un état d'obscurité énorme, tant que le monde ne sera pas arrivé à son état de Asiya. Et qui a le devoir d'amener le monde à son état de Asiya? C'est nous, les Juifs. Je m'arrête, prenez votre souffle, respirez très fort. Ouvrons juste une petite parenthèse pour tous les imbéciles qui écouteront ce cours-là et qui, bien évidemment, parce qu'ils sont imbéciles et ils sont très nombreux, ne vont rien comprendre à ce que je vais dire. Et maintenant que j'ai réglé mon compte aux imbéciles, je fais mon cours, je continue. C'est vrai que quand ils vont reprendre mon passage, ils ne mettront pas la parenthèse, mais ce n'est pas grave. Mais vous saurez que je l'ai mise. Vous savez, on vit maintenant à nouveau dans une époque où, une fois de plus, c'est cyclique, c'est tous les 50, 60 ans. Bon, il y a encore beaucoup d'autruches parmi nous, en France, ou même ici, ou partout, qui continuent à faire l'autruche. Mais c'est clair, c'est irréversible, c'est sans retour. À nouveau, on rentre dans un cycle de réveil d'antisémitisme. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Malheureusement, je veux dire, on a une longue mémoire et on sait plus ou moins à chaque fois que se réveille ce genre de signe où ça va et jusqu'où ça peut aller. C'est cyclique, c'est tous les 50-60 ans plus ou moins. Donc, on en a eu des cycles comme ça durant notre histoire. Comme je l'ai dit déjà tellement souvent dans le cadre de ce cours et on ne le dira jamais assez, le plus jamais, etc., on sait très bien que c'était encore une fois une illusion entretenue par tout simplement ceux qui ont peur de regarder la réalité en face. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas maintenant le sujet. À nouveau, c'est cyclique. Le monde entier se réveille et c'est la faute à qui? C'est la faute aux Juifs. Bon, je veux dire, on nous l'a fait tellement de fois ce coup-là et ils l'ont fait tellement de fois ce coup-là. Et ils se sont rendus compte, et nous nous sommes rendus compte tellement de fois que de toute façon, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, eux un jour ne seront plus là, et nous de toute façon, on sera toujours là. Alors viendront d'autres, peu importe. La victime, elle ne change pas, c'est toujours nous. Les agresseurs, eux, changent. Tous les 50 ans, 60 ans, c'est d'autres. Mais je ne comprends pas avec un minimum de bon sens. Ils devraient quand même se dire, attends, ça fait des millénaires qu'on fait le coup de c'est la faute aux Juifs. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pas possible, jusqu'à quand? Le Juif standard, le Juif de la rue, celui que nous sommes plus ou moins, je veux dire, quand il y a une nouvelle vague d'antisémitisme qui monte un peu partout, je dis, bon, bah, c'est des antisémites. Hein. Voilà. Ça me fait toujours penser à un homme croyant qui rencontre un homme athée, puis commence à discuter de choses profondes. Alors, dans la discussion, il se pose la question sur tel ou tel événement. Alors, l'homme religieux dit, bah, ça, c'est parce que Dieu l'a voulu, et voilà, etc. Et l'autre, il dit, mais non, mais c'est le hasard. Il continue, et ça, c'est parce que Dieu l'a voulu, mais non, 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 c'est le hasard. Puis, comme ça, pendant une demi-heure, à la fin de la discussion, l'homme croyant dit à l'autre, excuse-moi, je n'ai pas voulu t'interrompre dans la discussion, mais dis-moi, je ne le connais pas, le Dieu hasard, c'est qui? Ça veut dire quoi? Vous comprenez la profondeur de la... C'est-à-dire quoi, tu as remplacé un Dieu par un autre. De toute façon, tu dis c'est le hasard, tu dis c'est Dieu. C'est-à-dire que tu dis de toute façon que tu ne sais pas d'où ça vient. Donc c'est Dieu, c'est le hasard, c'est... Donc essayons d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. C'est quand même absolument incroyable. Qu'est-ce qui se passe constamment? Ils sont constamment en train de dire que... c'est de notre faute. Et nous, on est constamment en train de dire, bon, ben, ils sont antisémites. C'est comme si on disait, c'est le hasard. Tu as dit quoi en disant, ils sont antisémites? D'accord, ils sont antisémites, tout ce que tu veux. Mais ribono shalom, quelque chose qui se répète des millions de fois dans l'histoire et qui ne sert à rien. Il faut quand même un jour se poser l'action, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Surtout que nous, comme eux, savons tous que de toute façon, c'est pas de notre faute à nous. Si tout va mal. En tout cas, pas comme eux le disent et le comprennent. Alors d'où ça vient? Alors maintenant, je vais expliquer, c'est là que je faisais allusion aux imbéciles qui ne vont rien comprendre à mon cours, je ne faisais bien sûr pas allusion à des juifs. Je faisais allusion à tous ceux qui récupèrent mes propos pour dire, ah, voyez, même le rabbin, il l'a dit. Très bien. En vérité, il faut comprendre la chose suivante. C'est qu'à un niveau très, très, très haut, qui n'a rien à voir avec les antisémites ou anti-sionistes ou anti-tout ce que vous voulez, parce que eux sont des ordures, des imbéciles, tout ce que vous voulez, et eux de toute façon seront jugés pour ce qu'ils sont en tant que racailles. Mais à un niveau extrêmement, extrêmement élevé, qui les dépasse eux-mêmes, eux ne sont que d'une certaine manière des instruments. Il y a un cycle qui revient constamment, constamment, depuis que nous existons, que tout le monde nous dit « vous êtes responsable de tout ce qui va mal », parce qu'à un certain niveau, qui les dépasse complètement, mais que nous, en tant que juifs, devons savoir. Oui, effectivement, c'est notre mission de sortir le monde de son obscurité. Oui, c'est notre mission de remplir le monde de tout ce qui lui manque le plus. Oui, c'est notre mission de sortir le monde de son état de tohu et bohu. Et tant qu'on n'y arrivera pas, ils nous diront en bas, avec leur voix de chien, ce que d'une certaine manière, le maître du monde nous dit en haut, avec sa voix divine. Mais mon peuple, vous n'avez toujours pas sorti mon monde de son obscurité. Donc si tout va mal, c'est oui d'une certaine manière, à cause de vous. Bien sûr. Voilà. Je vous garantis, mes amis, que si les nations avaient compris ce que signifie être le peuple choisi, je vous garantis qu'elles n'auraient aucune difficulté à comprendre ce que disent nos maîtres lorsqu'ils affirment qu'avant le don de la Torah, le maître du monde a proposé la Torah aux 70 peuples et que tous ont dit « non, 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 merci, non, on n'en veut pas ». Parce qu'ils avaient tous compris ce que plus personne ne sait aujourd'hui, y compris notre peuple, ce que signifie avoir été choisi. D'accord? Hachem, il a fait un grand sale coup dans sa vie. Un grand. C'est de nous avoir choisis. Vous savez pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi c'est un grand sale coup? Parce que depuis le jour où on a été choisi, tous les problèmes du monde, c'est de notre faute. Où est la lumière? Où est le tikkun? Où est le parachèvement? Moi, j'ai créé un monde obscur. J'oserais presque dire, j'ouvre encore une fois une parenthèse pour les imbéciles qui ne comprendront rien à ce que je dis, mais c'est pour, ils sont nés comme ça, ils ont été programmés pour être idiots. Je vais faire la parenthèse. J'oserais presque dire que l'antisémitisme fait partie du programme. C'est un élément du rocher, c'est ça le rocher. Le rocher, c'est le monde de Tohu Vebohu que Dieu a créé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Ve'aretz haïta Tohu Vebohu. C'est quoi Tohu Vebohu? Ben c'est tous les anti-tout. C'est toute la racaille du monde. C'est toute l'obscurité du monde. C'est ça, Tohu Vebohu. C'est Hachem qui a créé le monde comme ça. Seulement il a confié à un peuple de faire sortir le monde de son état d'obscurité. Et donc, la racaille, quand elle sent que rien n'avance et que tout va mal, elle dit c'est la faute aux juifs. Mais en vérité, elle ne se rend même pas compte que dans le fond du fond du fond du fond, le plus subtil, le plus abstrait sur le plan spirituel, c'est une manière de nous dire sans le savoir, mais Israël, ça fait 3500 ans que vous avez reçu la Torah pour éclairer ce monde. Où est la lumière de ce monde? Où est la lumière de ce monde? Donc finalement, si on était de vrais juifs, de vrais, d'accord, on devrait réagir de deux manières face à un antisémite. Face à lui, tu lui craches au visage et tu n'essuies pas après. Mais face au maître du monde, je dis, maître du monde, je te demande pardon. Vraiment, j'ai honte. Après 3500 ans, je ne suis pas fichu d'apporter un peu de lumière dans ma vie et autour de moi. Parce que si c'était le cas, il ne m'aurait pas traité de sale juif. Comprenez? Parce que s'il te traite de sale juif, toi, c'est comme si le maître du monde te faisait comprendre. Pas de la même manière qu'à Dieu ne plaise. Mais c'est comme s'il te faisait comprendre. Tu sais, si tu avais joué ton rôle en tant que juif sur terre, tu n'aurais pas quelqu'un en face de toi qui te traite de sale juif. C'est dur à accepter. C'est très difficile à accepter. Mais c'est ça. On n'a pas fait notre boulot. On n'a pas fait notre travail. On ne reprochera jamais à un Français d'être responsable de l'obscurité du monde. On ne reprochera jamais à un Ukrainien d'être responsable de l'obscurité du monde. On ne reprochera jamais à un Russe, à un Américain, un Chinois, un Japonais. Ni à un Saoudien, ni à un Syrien, ni à un Irakien. Mais tous ensemble, ils reprochent à nous, le plus petit peuple de la Terre, même pas grand comme une province de France, on nous reproche à nous d'être responsable des malheurs de 7 milliards de personnes. Comment c'est possible? Mais enfin, ils devraient mourir dans leur honnerie. Comment ils ne meurent pas? Parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui parlent. C'est le maître du monde nous dit, oui. Vous n'êtes que quelques millions, ils sont 7 milliards. Mais je vous pose une question, mes enfants. Quand vous rentrez dans une grande pièce obscure, est-ce qu'il vous faut une lumière aussi grande que la pièce pour l'éclairer? Non. Une petite bougie, elle éclaire toute la pièce. Avec mes quelques millions, je peux éclairer 7 milliards. Mais j'aimerais bien que vous vous allumiez une fois. Allumez-vous. Et ça, c'est le grand problème. On n'arrive pas à s'allumer. Alors, on va essayer de continuer encore un petit peu plus. Quel est le rapport avec le Mishkan? D'abord, pour réasseoir les choses dans leur contexte. D'abord, le rapport avec la Paracha, avec le livre de Shemot, c'est que nous venons aujourd'hui, mes amis, de mettre en évidence véritablement ce qu'est l'identité juive authentique. Être un juif signifie quelqu'un qui a le courage, et nous sommes les seuls à l'avoir, avoir le courage de dire, oh oui, si ça va mal, dans le monde entier, c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour éclairer ce monde? Si tu me réponds, il n'a qu'à le faire lui? Lui, c'est un Français, il n'a qu'à éclairer sa France? Non, lui n'a pas été choisi. C'est moi, Jérusalem, qui a été choisi pour éclairer la France. Et même si j'y vis pas, pourquoi? Parce que dans une pièce immense, une seule petite lumière éclaire toute la pièce. Et on n'a pas besoin d'apporter la lumière partout dans chaque coin de la pièce. Une suffit. Ki mitzion tetzé Torah. Udvar Hashem Meirushalayim. De Tzion sortira la lumière, de Tzion sortira la Torah, et de Yerushalayim, la parole d'Hashem. Le problème, c'est que, évidemment, c'est tellement facile, finalement, de vivre comme tout le monde, en disant, ben moi, je m'occupe que de moi et de mes miens. Je peux vous garantir, d'après ce cours, mes amis, qu'on peut sans doute compter sur les 10 doigts de la main, les Juifs dans notre peuple, qui portent véritablement leur identité juive, véritablement. Dans la mesure où la plupart d'entre nous ne vivons que pour nous, notre femme, nos enfants, nos voisins, on se fait sa petite sauce comme ça, parnassa, religion, etc. Et oh, j'ai sauvé ma peau, c'est principal, c'est déjà difficile. Bah, le monde, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire pour les Syriens ou les Français, je veux dire Et bien, d'une certaine manière, c'est pour ça que tous les 50 ans, heureusement que le maître humain nous laisse respirer de temps en temps, quand 50 ans, il nous donne une génération. Et tous les 50 ans, vient une génération, paf, elle prend plein dans la figure, pourquoi? Et alors, vous l'éclairez, mon monde? Vous ne l'éclairez pas. Maintenant, je voudrais rajouter juste quelque chose d'extrêmement, extrêmement important en fin de cours, qui ne concerne pas des gens comme nous, mais c'est un message qui dépasse le cadre du public qui est ici présent. Nos maîtres font remarquer que ce message incroyable de la responsabilité du peuple juif face aux nations, et que finalement, si elle nous reproche d'être responsable de tout sans le savoir, c'est ce que le maître du monde nous dit, bien que lui n'est pas antisémite. Ah bon, que peut-être que oui, tiens, on va savoir. Et si c'était lui en vérité? Vous vous rendez compte? Ce serait incroyable. Comme ce chef du mouvement fasciste hongrois qui a découvert qu'il était... Je suis en train de faire une enquête, mes amis, je ne vous le dis pas, mais rien que je vous fais languir. Je suis en train de faire une enquête, je dirai pas un mot, sur une des plus grandes figures antisémites aujourd'hui, qui s'avère, mais quand on va le dévoiler, et on est très fort sur l'enquête, je suis très sérieux, c'est en vérité un juif. Il a une mère et une grand-mère juive qu'il nie ou qu'il ne sait pas, mais on va le lui dévoiler, il va se faire... Oui, mais lui, quand il va le comprendre, alors là, on continue. Maintenant, non, c'est pas Marine Le Pen. Non. On continue. Non, lui, il a un nom juif. Soral a un nom juif. Mais non, je sais qu'il n'est pas juif, mais lui, il a un nom juif. Mais en tous les cas, non, c'est quelqu'un. Donc on verra. Quand on va y arriver, on va y arriver. Doucement, ça fera le sujet d'un cours. Doucement. Mais là, vous allez tomber de haut. Quoi qu'il en soit, en tout cas celui de Hongrie, il a fait teshuva. Aujourd'hui, il a une kippa sur la tête, il a une barbe, il étudie en yeshiva. Alors c'était Hitler aurait rougi de honte devant lui. Ah oui, dans ses discours, il faisait honte à Hitler. Il s'est découvert juif, aujourd'hui c'est un juif pratiquant. Le chef du parti nazi de Hongrie. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant, c'est récent, c'est à quelques mois cette histoire-là. Et donc on revient maintenant à nos maîtres font remarquer ce extraordinaire. Toute cette parcha de Picoudé, encore 5 minutes, mes amis, en vérité, elle est plus qu'inutile, dans le style de ce que j'ai dit la semaine dernière, sur le cours de la semaine dernière, pas ici, dans mon cours au centre, pour ceux qui veulent l'écouter ou le réécouter. Parce que finalement, toute cette parcha nous dit qu'une chose quoi? Elle nous dit qu'une seule chose, c'est que tout ce que Moshe a reçu, et il a même reçu énormément d'or, d'argent, etc., des choses très coûteuses, très précieuses, qu'on lui a confiées pour pouvoir faire le Mishkan, la Torah tenait. C'est un message en tant que tel très intéressant. La Torah tenait à nous montrer que Moshe a tenu à rendre des comptes jusqu'au centime près que tout ce qu'on lui avait confié, voilà, j'ai reçu 30 kilos d'or, voilà, avec ces 30 kilos d'or, on a fait ça, 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 c'est là, vous pouvez peser, vous pouvez voir, les 30 kilos d'or sont là. Il a voulu être transparent, pourtant c'était Moshe Rabbeinu. Qui va soupçonner que Moshe Rabbeinu, très bien. Mais non, il a dit, moi, je préfère prévenir que guérir. Voilà tout ce que j'ai reçu, parce qu'au moment où on lui a porté, il y avait bien sûr des gens qui notaient. Et voilà tout ce qui est rentré, là, tout ce qui est sorti. Faites l'équivalence, vous verrez, il n'y a rien qui reste dans ma poche. De là, nos maîtres nous disent, de là tu vois la grandeur de Moshe, qui bien évidemment il était insoupçonnable, il a tenu à montrer une leçon, comme quoi un homme doit, dans le domaine de l'argent, être complètement transparent. On ne joue pas avec l'argent. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos maîtres nous disent, et pourquoi c'est le dernier message de cette paracha au point que d'une certaine manière, c'est le message qui vient conclure l'identité juive authentique, comme pour nous faire comprendre d'une certaine manière que c'est précisément dans ce domaine-là qu'il va falloir mettre le paquet pour pouvoir jouer son rôle de Or-la-Goyim. Vous remarquerez, et ne me faites pas une voix en écho, ça sera inutile et ça sera stupide. Vous remarquerez que l'argument antisémite, toujours le premier, le plus fort, le plus mis en évidence, à tort ou à raison, c'est toujours les juifs et l'argent. Après, on va rajouter plein de choses, mais c'est les juifs et l'argent. Ça, c'est l'argument qu'a traversé l'histoire. Les juifs et l'argent. Ce qui est extraordinaire, c'est que, j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est évident qu'il y a dans notre peuple de grands truands. C'est évident que dans tous les peuples, il y en a des suprêmement grands aussi. D'accord ? Comme des fois j'hésite à aller un petit peu trop loin, et la différence très souvent entre les nations et nous, c'est que chez nous, quand il y a un Madoff ou des gens comme ça, je veux dire, ce sont des individus, on les prend, ils se font de l'emprise, etc. Mais là-bas, c'est les États, là-bas, c'est les empires, là-bas, chez les nations, c'est les institutions apparemment les plus... Pâte blanche ! C'est l'horreur, l'horreur. Comme il y a un proverbe yiddish qui dit « Le monde à quoi il ressemble est une très grande poubelle qui est en état de putréfaction depuis des millénaires. » Le premier qui ouvre le couvert qui fait crever le monde entier. Ça, c'est le monde. Ça veut dire qu'est-ce qui se cache derrière la politique, derrière le clergé, derrière ci, derrière ça. Mieux vaut ne pas savoir. Eux, ils sont contents quand ils nous trouvent un Madoff, c'est le bouc émissaire. Mais si on savait ce qui se passe, des milliards de fois plus grave au niveau des États, comme je dis toujours, l'État américain, pour ne citer que lui, dans un domaine où je n'ai pas peur de le dire, parce que ça tout le monde le sait, et 150 000 fois Madoff, parce que qu'est-ce qu'il fait l'État américain? Il fait des faux billets toute la journée. Alors lui, parce qu'il est État américain, il a le droit d'être Madoff. Madoff, lui, quand il ne pouvait pas faire de faux billets, quand il n'avait plus de quoi rembourser, il est tombé. Qu'est-ce que fait l'État américain quand ils n'ont plus de quoi rembourser? Mais ils font des faux billets. C'est des faux billets puisqu'il n'y a rien derrière. Mais comme c'est l'État, ils ont le droit. Mais ça, c'est rien ce que je dis par rapport à ce qui se passe véritablement. Et tout le trafic qu'il y a dans le monde, et toutes les guerres, et pourquoi ils sont partis en Irak, et pourquoi si, pourquoi ça. C'est pas sur des petits millions, c'est sur des milliards de milliards. Mais peu importe. Malgré tout, vous remarquerez, alors que le monde sait à quel point le problème de l'argent est véritablement la poubelle du monde, et que tout le monde trempe dans ce problème-là, mais quand on peut choper un juif, alors là tout le monde se régale. C'est vrai. Mais d'un autre côté, à cause du phénomène que j'ai expliqué dans notre paracha, on comprend malheureusement, même si ça fait mal, on comprend pourquoi. Pourquoi ? Mais c'est très simple. Parce qu'on ne demande pas aux clergés de X ou Y ou Z religion de ne pas faire du trafic d'argent et de ne pas être la caisse qui blanchit l'argent de la mafia. On ne leur demande pas à eux de ne pas l'être. Pourquoi ? Parce qu'eux n'ont pas pour mission d'éclairer le monde. Donc, ils sont comme ils sont. Mais lorsqu'un juif trafique avec l'argent, à ce moment-là, il y a un grand problème. C'est qu'attends, nous on est dans l'obscurité, toi tu es dans l'obscurité. Alors qui c'est qui va nous sortir de la lumière? Qui c'est qui va nous sortir de là? Qui c'est qui va nous apporter la lumière? C'est pour ça que inconsciemment, lorsque les nations disent les juifs et l'argent, alors que nous, nos problèmes d'argent ne représentent pas le milliardième de toutes les cochonneries que eux font, malgré tout, la différence est énorme, c'est qu'eux n'ont pas le devoir de sortir le monde de son état de tohu vebohu, et nous avons le devoir de le faire. Et donc, lorsque un juif trafique avec l'argent, c'est comme s'il y en avait 7 milliards qui trafiquaient. Ça veut dire que ça revient au même. C'est pour ça que notre responsabilité à nous, en tant que juifs, d'être propres dans ce domaine, je sais que c'est comme si je prêchais dans un désert, mais ce n'est pas grave. Notre responsabilité à nous d'être propres dans ce domaine est peut-être la responsabilité la plus importante de toutes les responsabilités. Parce que le jour où les nations verront que, malgré tout ce qu'eux-mêmes font, le peuple juif s'efforce de toutes ses forces, lui, d'avoir une relation à l'argent qui est une relation à l'argent qui est noble, qui est propre, à ce moment-là, croyez-moi que plus que tous les autres discours ou tous les autres modèles qu'on pourra leur présenter, c'est celui-là, uniquement celui-là qui sera retenu. Pourquoi ? Parce que les goïms, je parle dans leur dans le grand ensemble, je ne parle pas des milliers ici et des centaines de milliers par là, ne seront pas sensibles à nos discours spirituels, moraux, aux mitzvot qu'on font, etc. Ce qu'ils veulent, eux, c'est du concret. Concrètement, comment vous comportez-vous ? Et le domaine du concret par excellence, c'est l'homme et l'argent. Et si dans le domaine de l'argent, le peuple juif ne montre pas l'exemple, à ce moment-là, je le dis ici du haut de cette chair, je dis, tous les juifs qui trafiquent avec l'argent, et surtout lorsqu'ils trafiquent en relation avec les goïms, sont les responsables directs de tous les malheurs qui nous tombent sur la tête. Ces gens-là, il faut les montrer du doigt, il faut les condamner, il faut les dénoncer, il faut les sortir de notre peuple, il faut les mettre au banc de notre société. À chaque fois qu'un juif se comporte mal avec de l'argent, même si c'est un enfant de cœur par rapport à ce qu'eux-mêmes font, c'est pas une excuse, parce qu'eux ne sont pas la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde. Eux n'ont pas l'obligation de sortir le monde du rocher, mais nous avons l'obligation de sortir le monde du rocher. Et viendra un temps, et ça dépend de notre délivrance dépend de ça, que tous les gens courageux et nobles parmi nous, peuple juif, partout où nous savons qu'il y a un juif qui triche, on le prendra, on le sortira de notre peuple, on lui dira, toi tu n'es plus un enfant de notre nation, va-t'en, tu amènes sur nous toutes les catastrophes, et Bezrat Hashem que ce temps arrive le plus tôt possible, amen.